Voilà donc, nous poursuivons notre étude sur des sujets importants entre la foi chrétienne et la religion musulmane. Aujourd'hui, nous allons aborder la place des mérites et de la grâce face au jugement dans la Bible et le Coran. Et pour introduire notre étude, je vous invite à lire un passage dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 3. Les versets 10, les versets 10 à 15. La première épître aux Corinthiens, chapitre 3, les versets 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déjà posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Jusqu'ici, notre lecture. Initialement, j'avais prévu de vous parler ce matin sur la notion du salut dans la Bible et le Coran, avant d'aborder la question du jugement. Mais, après réflexion, j'ai opté plutôt de commencer d'abord par la fin, avant de revenir à la question du salut, à ce qu'il faut faire pour être sauvé. Donc, aborder d'abord le jugement, avant de revenir à la question du salut, lors de mon prochain institut biblique. Pourquoi ce choix? J'ai fait ce choix parce que je voulais d'abord donner le résultat, ce à quoi conduisent la foi chrétienne et la foi musulmane avant de demander aux uns ou aux autres de faire leur choix ou avant de motiver le choix qui a été déjà fait. L'autre raison pour laquelle j'ai fait aussi ce choix, c'est lié à mon expérience personnelle dans mes échanges, par exemple, avec des amis, membres de ma famille aussi, musulmans. Souvent, après quelques mots de discussion, on part d'abord pour voir le résultat. C'est-à-dire, c'est en fonction de la fin qu'on prend la décision présente, en fonction de la fin, de l'avenir, qu'on décide pour l'aujourd'hui, pour le présent. Et enfin, je voulais tout simplement pas aussi terminer cette série d'instituts bibliques sur la question du jugement. Je voulais la terminer plutôt sur la question du salut. Voilà donc pourquoi j'ai opté de vous parler de cette manière. Dans cet exposé, j'aimerais exposer d'abord la conception du jugement dans la foi musulmane et ensuite faire une comparaison avec ce que la Bible enseigne et en particulier le texte que je viens de lire. Je ne vais pas faire comme d'habitude là encore, prendre d'abord le temps de vous parler du jugement dans la foi chrétienne. Et après prendre le temps pour parler du jugement dans la foi musulmane, pour une question aussi du temps. Je sais que dans la vie de notre Église, on reviendra sur la question du jugement, si nécessaire, du point de vue purement biblique. Je vous propose donc maintenant d'aborder la question du jugement dernier dans l'islam, ensuite la place des mérites et de la grâce au jour du jugement dans l'islam, et terminer par des points de comparaison avec la foi chrétienne. Le jugement dans la religion musulmane. L'un des derniers fondements, des cinq fondements de la foi musulmane, porte sur le jour de jugement. Et je reviendrai sur les piliers de la foi musulmane. Mais si cet article vient qu'en dernier lieu dans les articles de foi musulmane, ceux qui portent sur le jugement, ce n'est certainement pas parce que le sujet est moins important que les autres sujets dans la prédication de Mohammed. L'eschatologie, ou bien la fin des temps, dans le jugement dernier, dans la prédication de Mohammed sont au centre de son enseignement et il leur accorde une très grande importance dans sa prédication. Il y a des sourates tout entières qui peuvent être citées et qui sont consacrées à la fin des temps dans le Coran. Il y a beaucoup de textes qui mettent l'accent également sur les bonnes ou les mauvaises œuvres qu'on fait et qui sont en lien avec le jour de jugement. Il y a au moins 20 sourates sur les 114. C'est presque donc 20% des textes coraniques qui traitent exclusivement de la question de la fin des temps et du jugement dernier. Un certain nombre de chercheurs soutiennent même que le cœur, à vrai dire, du Coran, c'est-à-dire le noyau du Coran, ce sont ces 33 dernières sourates et ces 33 dernières sourates que vous trouvez dans le Coran portent sur le jugement dernier et portent sur la fin des temps. Il y a une série des hadiths aussi, c'est-à-dire les hadiths sont les textes qui sont laissés par Mohammed. Donc, c'est cette série des hadiths aussi, il y a toute une série des hadiths qui parlent aussi de la fin des temps, mais une fin des temps qui était imminente. Lorsque Mohammed prêchait, il pensait que la fin des temps allait arriver de son vivant, avant même de mourir. Il y a par exemple un hadith où Mohammed dit « Les gens de mon vivant verront l'Antéchrist », sachant que dans le Coran, il est annoncé que l'Antéchrist précède le retour du Christ et le retour de la fin des temps. Un autre hadith, par exemple, disait Mohammed à la fin de sa vie, vous savez, on est en 632 pour vous repérer un peu dans le temps, disait que Mohammed était malade, gravement malade. Il disait que le jour du jugement arrivera avant même sa guérison. Donc il pensait qu'avant sa guérison, la fin du temps elle allait arriver. Donc cette attente de la fin des temps qui était vraiment une attente imminente est palpable dans ces 33 sourates que j'avais indiquées. Ce sont les 33 dernières. Hein, donc vous prenez de la fin et vous comptez. Mohammed ne connaît pas l'heure, comme il le dit, l'heure de la fin. Il dit, il y a seul Dieu qui connaît l'heure de la fin. Il y a toute une série de textes, mais par contre, qui évoquent l'approche de cette heure de la fin, qu'il évoque très régulièrement. Je crois que je vous projette, il y a le texte, le Coran 21, je ne sais pas si... Ah oui, voilà, vous ne voyez pas grand-chose, il est derrière moi. Donc, le jour où les hommes auront à rendre des comptes approche, et cependant plongent dans leur insouciance, ils s'en détournent, aucun nouveau rappel ne leur parvient de leur Seigneur, qu'ils ne l'écoutent d'un air amusé et d'un cœur distrait. Il dit le jour de la fin approche, l'heure de la fin approche. Le jour de jugement sera précédé par des signes, d'après le Coran. Et parmi les signes mentionnés dans la théologie musulmane, il y a l'apparition de plusieurs choses. Par exemple, l'apparition d'un animal sorti de la terre qui reproche aux êtres humains leur incrédulité. C'est le Coran 27. Et cet animal aussi va marquer les hommes et les femmes par du fer. Il y aura l'éruption des peuples pour faire la guerre de Gog et Magog. Et donc cela est rapporté dans le Coran. Il y a d'autres signes qui sont cosmiques, qui vont se reproduire aussi. La terre sera secouée dans son séisme, le ciel se fondra, les planètes se disperseront, les montagnes voleront comme les flocons de laine cardée. Le soleil se lèvera au couchant, il se retirera au retentissant, c'est-à-dire au levant. Il y aura des trompettes, etc., etc. C'est des signes qui nous rappellent aussi quelque chose, quelques textes vagues dans le Nouveau Testament. La tradition musulmane indique qu'à la fin des temps aussi, Jésus reviendra. Jésus reviendra avec le 12e imam. Cet imam qui est attendu toujours par, c'est un imam historique hein, qui est entré en occultation ou caché depuis 940-41 et ils disent qu'il reviendra à la fin des temps avec Jésus. Donc Jésus reviendra avec cet imam qu'on appelle le Mahdi, qui est considéré comme le sauveur qui vaincra les forces du mal et qui va inaugurer le règne de la paix. Mais cette venue de Jésus sera précédée par celle de l'Antichrist, comme je l'indiquais tout à l'heure. L'Antichrist reçoit de Dieu la faculté de faire des miracles et de séduire beaucoup d'hommes et de femmes méchants. Tandis que les croyants vont s'apercevoir que c'est une tromperie, que cet Antichrist n'est pas le vrai Christ, donc c'est un séducteur. Ils vont s'apercevoir donc que c'est une tromperie et qu'il faut donc lui résister. Monté sur son âne blanc, il viendra appeler les hommes à le suivre et beaucoup d'hommes méchants, mécréants, se mettront à sa suite. Mais Dieu interviendra, mettra la fin à cette action de l'Antichrist en envoyant Jésus sur la terre pour le détruire avec sa lance. Le retour de Jésus se fera à Damas, d'après la plus grande l'opinion majoritaire de la théologie musulmane. Damas parce qu'elle a été la capitale du califat des Omeyyades, la première dynastie à gouverner l'ensemble de la communauté musulmane après les quatre premiers califes. L'un des minarets de la grande mosquée des Omeyyades, justement à Damas, porte le nom de Jésus, jusqu'à nos jours. Il est appelé le minaret de Jésus. Pour les théologiens de cette mouvance, après la descente du ciel de Jésus à Damas, Jésus va se rendre par la suite à Jérusalem. Il y a bien entendu une autre tendance théologique, mais minoritaire, qui dit que Jésus reviendra directement à Jérusalem et descendra directement à Jérusalem. Une fois arrivé à Jérusalem, Jésus, d'après la tradition musulmane, deviendra prédicateur de l'islam et appellera les chrétiens à la foi musulmane. Et puis, au passage, il tuera tous les ports, il détruira toutes les croix, les synagogues, etc. Après tous ces signes, l'heure, on appelle en arabe Sa'a, mais c'est l'heure, c'est vraiment la théologie, hein, théologie de l'heure, c'est pour ça que je me permets de dire un peu en arabe, parce que parfois vous entendrez aussi son nom. Donc, pour cette théologie, après ces signes, l'heure du jugement sonnera et tous les hommes ressusciteront, sortiront de leur tombe et seront ramenés auprès de Dieu pour lui rendre des comptes. La sourate 99 est entièrement consacrée à l'avènement du jour du jugement. Je citerai uniquement quelques versets de cette sourate, notamment les derniers, les versets 68 à 70, disent « Au premier son de la trompette, tous les êtres qui peuplent les cieux et tous ceux qui peuplent la terre seront fourvoyés à l'exception de ceux que Dieu voudra épargner. Puis on sonnera une deuxième fois et les voilà tous debout attendant leur sort. Et aussitôt la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, de même que le bilan des actions des hommes sera déployé et les prophètes et les témoins seront mandés. Afin que justice soit rendue entre les hommes et que nul d'entre eux ne soit lésé, chaque âme recevra alors l'exacte rétribution de ses œuvres, Dieu étant bien informé de ce que les hommes faisaient. » Tous les êtres seront donc, les êtres humains seront donc convoqués ce jour-là devant le tribunal de Dieu. Même les prophètes et les martyrs seront ce jour-là appelés à revenir du paradis, je reviendrai sur leur statut, à revenir du paradis pour assister au jugement dernier. Car les prophètes et les martyrs, en fait, entrent directement au paradis après leur mort, après l'interrogatoire tombal. Ce jour-là, chaque être humain rendra des comptes, de ses actes devant Dieu, et Dieu les jugera avec justice, comme le souligne le texte, notre texte, et même le texte que je viens de lire, même d'autres textes aussi. Les anges viendront apporter le livre où sont écrites toutes les œuvres, les actions des hommes, bonnes ou mauvaises. Ceux dont la balance est lourde seront bienheureux, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leur propre âme et demeureront éternellement dans l'enfer. Et je cite le Coran 23, c'est-à-dire la sourate 23, les versets 102 et 103. Une tradition rapporte que tous les êtres humains passeront sur le pont de Sirat. Le pont de Sirat, c'est un pont, donc c'est dans le Coran 36 et 37. C'est un pont qui est fin comme un cheveu ou bien comme une épée. Ceux dont les bonnes œuvres l'emportent ne vont pas trébucher et ne tomberont pas. Mais ceux dont les mauvaises œuvres l'emportent trébucheront et tomberont. Ils tomberont où ? Ils tomberont dans l'enfer, mais l'enfer, c'est dans la conception musulmane, donc c'est la, ils tomberont simplement dans la géhenne. Et la géhenne, c'est la partie supérieure de l'enfer dans la conception musulmane. Donc ils tomberont juste dans cette, la géhenne, la partie supérieure de l'enfer. La tradition indique au début de ce pont, il y a l'ange Michael qui se tient là debout et Gabriel au milieu de ce pont. Et l'un et l'autre vont faire un interrogatoire pour tous les passagers. Quel est le sort maintenant de chacun? Sur quelle base est déterminé le sort de chacun le jour de jugement et quelle est la place, à vrai dire, des mérites et de la grâce ce jour-là, dans l'acception toujours musulmane, hein? Une règle coranique préside au sort de chacun au jour de jugement dans l'islam. Elle est rapportée dans le Coran 99, versets 7 à 8, qui dit ceci. « Qui aura accompli le point d'un atome de bien le verra, qui aura accompli le point d'un atome de mal le verra. » Les mérites seuls comptent face au jugement dernier dans l'islam. Et c'est la première chose qu'il nous faut souligner ici. Cette règle, à vrai dire, n'attend pas le jour de jugement pour s'appliquer. Elle s'applique déjà à partir du jugement tombal, c'est-à-dire à partir au moment de la mort de la personne. D'après la tradition musulmane, quand je dis la tradition, c'est-à-dire je fais allusion à des hadiths, et les hadiths font partie des textes fondateurs de leur foi, de leur théologie. Donc d'après ces textes-là, d'après cette tradition, tout musulman qui meurt rencontre l'archange Azraël, qui est appelé aussi l'ange de la mort, dès le cimetière, au cimetière. À partir du moment où la dernière personne du cimetière sort du cortège, c'est-à-dire de ceux qui ont participé à l'enterrement, partent, là, la personne enterrée, qui vient d'être enterrée, fera face à un jugement tombal, ce qu'on appelle jugement tombal. Tous les musulmans passent par ce jugement, y compris les prophètes et les martyrs, qui bénéficient d'un statut particulier. Après ce jugement, les prophètes et les martyrs entrent directement au paradis. Quant aux autres croyants, vont attendre le jugement final dans la tombe, en espérant aussi être au bénéfice de l'intercession de Mohammed, sur laquelle je reviendrai aussi un peu plus tard. Même le prophète Mohammed n'a pas échappé à ce jugement tombal. Lui-même, il rapporte dans un hadith où il dit « Je me réfugie auprès de toi, en parlant à Dieu, contre la séduction de la mort et de la vie, contre le châtiment du tombeau. » Après ce jugement tombal, tous les hommes seront plongés dans un sommeil profond en attente du jour de jugement, le jour de la résurrection, le jugement ultime. Ce sommeil leur paraîtra très court, d'après plusieurs textes du Coran, visant à rassurer et apaiser le croyant. Comme nous l'avons déjà souligné, les prophètes et les martyrs ne connaîtront pas ce sommeil puisque après ce jugement tombal entreront directement au paradis. Certaines traditions musulmanes vont encore plus loin en élargissant ce cercle, ne pas le limiter aux martyrs et aux prophètes, mais en l'élargissant à tous les croyants. Mais c'est vraiment une thèse soutenue par une minorité. Le jugement tombal donc donne une indication si normalement, au jugement final, on ira au paradis ou en enfer. Au jour du jugement, la règle qui est annoncée dans le Coran 99, c'est elle qui présidera au sort de chacun. D'abord, vous avez, donc là, au jour du jugement, vous avez ceux qui vont entrer au paradis. Les personnes dont les bonnes œuvres l'emportent sur les mauvaises, d'une manière franche et claire. Ces personnes-là entreront au paradis et c'est ce qui est annoncé à plusieurs endroits dans le Coran, notamment le Coran 39, les versets 73 à 74. Voilà, si vous voulez les lire, vous pouvez les retrouver un peu partout. En plus de ces personnes donc, dont les bonnes œuvres l'emportent sur les mauvaises, il y a deux autres catégories de personnes qui iront directement au paradis, les prophètes et les martyrs. Les prophètes, c'est à cause de leur statut de prophète, de fait qu'ils ont été choisis par Dieu et pour une mission particulière et porteurs d'un message particulier, ils ont délivré la parole de Dieu. Ceux-là iront directement au paradis d'après la conception musulmane. Quant aux martyrs, sur ce qu'ils ont, parce qu'ils ont engagé aussi bien leur personne que leur bien dans le combat pour la cause de Dieu. Après, bon, voilà, pour la notion de martyr, j'ai eu déjà l'occasion de parler ici sur la notion de djihad. Quand je parle du martyr, je ne parle pas de ces extrémistes qui s'explosent aussi, enfin, qui donnent la mort à tout le monde, de ces djihadistes. Il y a une compréhension qui peut laisser entendre cela, mais la plus grande compréhension parle des martyrs qui sont tombés dans une défense légitime, enfin, en tout cas, ce qui pourrait être légitime, comme dans des guerres, etc. Mais j'avais fait déjà un institut biblique sur ce sujet, je pense que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc, si l'application rigoureuse des cinq piliers et le respect des fondements, des cinq fondements de la foi musulmane n'assurent pas automatiquement la foi, n'assure pas automatiquement l'entrée au paradis, le statut de martyr et de prophète accorde d'entrer directement au paradis. Et là, vous avez comme texte le Coran 4, par exemple, le verset 73, le Coran 9, verset 89, etc. En face de ceux qui entrent au paradis, vous avez ceux qui vont entrer directement aussi en enfer, ceux dont les mauvaises œuvres l'emportent sur les bons. Ceux-là seront jetés en enfer et personne ne pourra leur venir en aide. Ils seront saisis d'un désespoir profond. Le jugement est individuel. Néanmoins, certains groupes religieux ou peuples sont condamnés autant que groupes à cause de leur appartenance ou à cause d'un péché impardonnable qu'ils ont commis autant que groupe. Sur cette base, par exemple, sont condamnés les polythéistes. Ceux qui sont polythéistes, autant que groupe, ils sont condamnés à aller en enfer d'après les textes coraniques parce qu'ils font l'ishrak. C'est le Coran 16, par exemple, ou le Coran 28. Les chrétiens et les juifs, initialement, n'étaient pas considérés comme des polythéistes. Mais dans une certaine lecture tardive de certains textes coraniques, il y a des mouvances musulmanes minoritaires, mais quand même, qui considèrent que les chrétiens et les juifs aussi sont polythéistes, c'est-à-dire ils associent des associateurs, ils associent à Dieu une divinité, et ils se basent sur le Coran 9, verset 30. Donc, pour eux, les chrétiens et les juifs aussi, donc, iront directement en enfer parce qu'ils commettent le péché impardonnable, le péché d'associer, le fait d'associer à Dieu une divinité. En plus donc de ces personnes dont les mauvaises œuvres l'emportent sur les bonnes, vous avez bien sûr les idolâtres et vous avez tous ceux qui rejettent l'islam et qui ne se convertissent pas à l'islam, à l'unicité divine dans l'islam. L'enfer sera surveillé par des anges, c'est le Coran 74 qui le dit, pour ne permettre à personne d'en sortir. Donc, au jour de jugement, comme au jugement tombal, dans la conception musulmane, il y a une seule règle qui va s'appliquer. Qui aura accompli le point d'un atome de bien le verra, qui aura accompli le point d'un atome de mal le verra. C'est l'enseignement principal dans le Coran et dans la tradition musulmane, dans la théologie musulmane. Les mérites seuls comptent face au jugement de Dieu. Si les mérites seuls comptent face au jugement de Dieu, où est donc la place de la grâce ? Est-ce qu'il y a la place de la grâce, de la miséricorde ? Le Coran, la plupart des textes coraniques, la plupart des sourates commencent « dit au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux ». Elle est où cette miséricorde dans ce cas-là ? Comment se manifeste-t-elle ? Face au jugement de Dieu. La grâce de Dieu intervient en effet, même dans l'islam, même face au jugement, mais dans un cas très précis, uniquement à l'égard des croyants à qui il ne manque pas grand-chose pour entrer au paradis. Il y a deux catégories de personnes qui sont considérées comme proches du paradis, mais qui n'entreront pas parce qu'ils n'ont pas assez de points. D'abord, ceux dont les bonnes œuvres sont égales aux mauvaises. Ces personnes-là se retrouveraient, donc, d'après certains commentateurs musulmans, dans un lieu qui est appelé Araf. Je ne sais pas comment on peut le traduire, mais c'est un lieu dont le Coran parle à la sourate 7, le verset 46. Cet lieu est un lieu intermédiaire entre le paradis et l'enfer, mais il n'est pas très clairement défini dans la théologie musulmane. On se contente de dire c'est un lieu intermédiaire, mais on ne sait pas trop. Il y a une seconde catégorie de personnes qui va bénéficier aussi de cette grâce de Dieu, de cette forme de grâce de Dieu face au jugement dernier. Ce sont les personnes dont les mauvaises œuvres, à vrai dire, l'emportent de peu sur les bonnes. Donc il leur manque très peu de choses. Pour aider, je vais schématiser, je vais donner un peu. Si, par exemple, l'échelle du jugement de Dieu est de 0 sur 20, c'est-à-dire sur 20, les personnes qui ont 10 sur 20 vont se retrouver dans ce lieu. Ils ont des points positifs, des points négatifs. Les personnes qui iront, d'autres personnes, la deuxième catégorie de personnes qui va bénéficier de cette grâce de Dieu, sont les personnes qui iront peut-être 8,5, 9 jusqu'à 10 sur 20. Donc ils sont très proches, mais il ne leur manque pas quelque chose. Pour parler le langage courant, c'est des personnes pour qui on peut faire du rattrapage, pour ceux qui font des examens. Après donc le jugement, ces personnes vont tomber quand même dans la géhenne, dans la partie superficielle de l'enfer, vont tomber donc dans la géhenne et elles vont attendre. Dans la conception musulmane, donc, ces personnes vont attendre et elles vont attendre pour un temps parce que Dieu a pourvu un moyen de les faire sortir. Et c'est quoi ce moyen par lequel Dieu va manifester sa grâce? C'est l'intercession que j'ai appelée compensatrice, mais que j'ai pas trop. Le terme compensatrice, ça vient de moi. Donc, parce qu'il fallait bien la rendre un peu compréhensible. Donc c'est l'intercession un peu compensatrice. C'est quoi cette intercession compensatrice? Dans la théologie musulmane, il est question d'une intercession le jour du jugement en faveur des personnes qui auront donc les mêmes points que la moyenne et les personnes qui vont avoir un peu moins que la moyenne. Ce qu'on appelle l'intercession shafa en arabe, en faveur de ces personnes-là. Cette intercession est appelée donc, qu'on peut appeler d'intercession compensatrice, sert à acquérir les points manquants. Parce que le tout, c'est qu'il faut absolument acquérir les points qui manquent pour franchir la barre des 10% et entrer au paradis. Dans le Coran, c'est Dieu qui est appelé l'intercesseur. Donc c'est lui qui peut intervenir et intercéder en faveur de ces personnes, venir en aide de ces personnes pour leur permettre d'entrer au paradis. Mais la tradition musulmane a fini par attribuer aussi ce rôle d'intercesseur à Mohammed. Donc, notamment la base du Coran 17, et dans le Coran 17, il rapporte le voyage nocturne de Mohammed au ciel, où Mohammed avait intercédé en faveur de la communauté des croyants. Pour les musulmans, ils disent de la même manière que Mohammed a intercédé lors de son vivant dans un voyage nocturne, donc un peu spirituel, extatique, donc de la même manière il a intercédé, et le jour du jugement, il intercédera aussi en faveur des croyants à qui il manque peu de choses pour être sauvés. Néanmoins, l'intercession de Mohammed au jour du jugement est contestée par certains théologiens, notamment un certain groupe de théologiens, les Mu'tazilites, qu'on appelle les Mu'tazilites, qui sont un peu des rationalistes, mais des rationalistes qui se basent sur le Coran. Ce ne sont pas des libéraux, des rationalistes, et eux, ils considèrent sur la base des textes coraniques qu'on ne peut pas accepter que Mohammed joue ce rôle d'intercesseur, mais que ce rôle est réservé exclusivement à Dieu. Ceci dit, la plupart des musulmans, dans la théologie musulmane, on considère quand même que l'intercession, il y aura l'intercession de Mohammed, à côté de l'intercession de Dieu, il y aura l'intercession de Mohammed à l'égard de ceux à qui il manque peu de choses pour être sauvés. Mais au-delà de ce débat, les théologiens musulmans donc soutiennent que les croyants proches de paradis seront au bénéfice de la miséricorde de Dieu et que la grâce de Dieu se manifestera à leur égard le jour du jugement de cette manière-là, par l'intercession de Dieu et de Mohammed. Il y a donc dans la théologie musulmane la place pour la grâce et la miséricorde de Dieu le jour du jugement, mais comme vous l'avez remarqué, cette grâce ne concerne pas d'abord tout le monde, elle concerne uniquement ceux qui ne sont pas très loin du compte, d'une part, et surtout, d'autre part, c'est une grâce qui est là pour permettre d'atteindre l'objectif. Et ce n'est pas, c'est pour ça que je l'ai appelé l'intercession compensatrice. Donc, elle permet d'atteindre l'objectif. Mais il faut absolument dépasser la moyenne pour pouvoir avoir accès à la grâce de Dieu. Donc, les mérites, ce sont les mérites et les mérites seuls qui comptent. Cette théologie, bien entendu, responsabilise très sérieusement les croyants musulmans, leur disant, mais faites très attention, on ne joue pas avec Dieu. Vos actes seront vraiment examinés à la loupe et ce sera le fruit de vos actes. Et parfois, on peut comprendre aussi le zèle de beaucoup de nos amis, pour ce qui me concerne des membres de ma famille, aussi musulmans, leur zèle aussi de faire de bonnes choses, même dans leur piété. Je ne pense pas que c'est motivé uniquement par cela, mais je pense qu'on ne peut pas exclure cela aussi. Quelle comparaison maintenant faire avec la foi chrétienne? Le texte de l'apôtre Paul que j'ai lu tout à l'heure, au début de cet institut public, permet, me semble-t-il, de dégager quelques points de comparaison. J'aimerais souligner deux choses. La première chose que je veux souligner, c'est d'abord la différence fondamentale entre la théologie musulmane et la théologie chrétienne sur la place de la grâce le jour du salut. Dans la théologie chrétienne, même la personne dont l'œuvre sera consumée, dont il ne restera absolument rien, sera sauvé quand même. C'est ce que l'apôtre Paul souligne dans le dernier verset du texte que je vous ai lu, au verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée entièrement, c'est-à-dire il n'y a rien de bon, hélas, ça peut arriver, j'espère que le Seigneur nous accordera la grâce quand même de faire un peu, mais ça peut, hélas, arriver. Si donc l'œuvre de la personne est complètement consumée, il en subira la perte, dit l'apôtre Paul. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Si Paul peut dire une telle chose, c'est parce que le salut de la foi dans la foi chrétienne est accordé uniquement sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il ne dépend absolument pas des œuvres que nous allons accomplir ou que nous n'allons pas accomplir. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. C'est lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu à ce que nous nous engagions sur la voie de la repentance pour mourir pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans Romains 5. L'Évangile considère que tous les hommes sont pécheurs, condamnés à la mort. Le prophète Isaïe dit même que nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Il n'y a point de juste, écrit l'apôtre Paul. Il n'y a point de juste, même pas un seul. Dans Romains 3. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains chapitre 3. Et il poursuit au verset 23 de ce même chapitre en disant « Tous sont péchés, sont privés de la présence de Dieu ». Donc l'être humain est marqué dans la conception biblique, marqué gravement par le péché, il ne peut se sauver par lui-même, même s'il a tout le zèle et toute la détermination qu'il faut, et même s'il accomplit toutes les œuvres justes et bonnes tout au long de sa vie. Dieu, dans son amour, a choisi de nous pardonner, sachant que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, il a choisi de nous pardonner par grâce. Pure grâce, c'est ce que l'apôtre Paul va adresser aussi, il va écrire aussi dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, à deux reprises, il dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu » dans Éphésiens 2. C'est Dieu qui nous sauve complètement, totalement. Dieu ne nous a pas sauvés parce que nous allions accomplir les bonnes œuvres par la suite, c'est-à-dire après notre conversion, mais parce que Jésus-Christ a payé le prix de notre désobéissance à la croix, comme nous l'avons chanté et rappelé aussi lors de la scène. L'apôtre Paul écrit donc dans la seconde épître à Timothée en disant au chapitre 1, Dieu nous a sauvés, et nous a adressé un saint appel, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan, de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ depuis toute l'éternité. Si nous sommes donc sauvés, c'est par pure grâce, c'est par la grâce et la grâce seule. Dans la foi musulmane, les œuvres d'abord, comme je viens de le souligner. Ce sont les œuvres qui déterminent le sort de la personne. Si la personne peut être sauvée ou non, ce sont ses œuvres, ce sont les mérites. C'est en fonction d'elles que son sort est scellé pour toute l'éternité. Certes, il y a la place pour l'intercession possible, comme je l'ai mentionné, on veut obtenir les points manquants, mais on revient toujours qu'il faut absolument les œuvres atteindre, dépasser la moyenne. La notion de la grâce, telle qu'elle est présentée dans l'Évangile, est complètement absente dans la théologie musulmane, même si ce que j'ai présenté tout à l'heure est appelé dans la théologie musulmane comme la grâce de Dieu, la manifestation de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Mais nous parlons là de deux conceptions de la grâce complètement différentes. Dieu ne peut pas donc déclarer un coupable juste dans la théologie musulmane avant que celui-ci paye jusqu'à son dernier centime. Et c'est la règle d'or en la matière, c'est le Coran 99 qu'il faut retenir sur ce sujet. Donc sur la notion de la grâce, il faut dire très clairement qu'il y a une différence fondamentale entre la théologie chrétienne et la théologie musulmane. Pour la Bible, seule la grâce peut faire triompher du jugement de Dieu. Personne ne peut faire valoir ses bons actes, ses bonnes actions, sa piété. Pour l'islam, seules les œuvres peuvent faire passer le jugement de Dieu avec succès. Nous avons là une différence fondamentale sur le plan théologique. Deuxième chose que j'aimerais souligner dans cette comparaison rapide entre ces deux théologies, c'est la place que mérite, la place des mérites le jour du jugement. Pour la foi musulmane, les mérites sont une juste rétribution de Dieu. Ne pas récompenser les œuvres serait injuste de la part de Dieu, ne serait pas conforme à l'attribut de justice de Dieu, dit la théologie musulmane. Ils ne pourront pas donc, rétribue les hommes en fonction de leurs œuvres. Dans nos milieux chrétiens, en particulier protestants, l'accent est mis sur la grâce, comme je viens juste de l'évoquer, et nous avons bien raison de le faire. Ceci dit, parfois, cet enseignement nous fait perdre de vue la théologie des œuvres dans notre théologie, dans la théologie chrétienne. L'apôtre Paul écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. C'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Paul parle bien que nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. Le texte que j'ai lu dans 1 Corinthiens 3 parle très clairement des récompenses au verset 14 que chacun recevra en fonction de son œuvre. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Certains commentateurs ont proposé de comprendre la question de salaire à la place de la récompense, c'est-à-dire il recevra son salaire. Mais peu importe, cela ne change pas à grand-chose. Il est bien question ici de la rétribution, de la rétribution en fonction de ce que nous avons fait, de la manière dont nous avons bâti sur le Christ dans notre vie chrétienne. Il y a plusieurs manières de bâtir, évoque l'apôtre Paul, sur le fondement posé sur Jésus-Christ. Il y a plusieurs manières de bâtir, et l'apôtre Paul les a mentionnées. Il y a ceux qui bâtissent avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou bien avec du bois, du foin et du chaume. Il y a deux matériaux qui sont désignés très clairement par l'apôtre Paul. Vous avez d'un côté des matériaux qui résistent au temps et au feu, comme l'or, l'argent et les pierres précieuses, et vous avez des matériaux qui ne résistent pas, qui n'ont aucune résistance, aussi bien dans le temps, face au temps, que face au feu. Et c'est le cas du bois, du foin et du chaume. Ceux qui construisent avec des matériaux qui résistants, se verront récompensés au jour de jugement. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans ce passage. Mais ceux qui construisent avec des matériaux qui seront consumés, qui ne résisteront pas, ceux-là ne seront pas récompensés, perdront toute forme de récompense, sachant qu'ils seront sauvés. Le salut n'est pas en question. Paul indique donc qu'on peut perdre sa récompense, son salaire, mais bien entendu, son salut, on le gardera toujours. De quoi s'agit-il? C'est quoi cette récompense? Est-ce que c'est juste une profonde satisfaction d'avoir bâti sur de bon, de solide, d'avoir la satisfaction d'avoir exercé bien son ministère, parce qu'il est question des ministères hein, dans ce passage, ou bien d'avoir servi le Seigneur, d'avoir fait sa vie professionnelle d'une manière satisfaisante qui honore le Seigneur, même si elle est complètement en dehors de l'Évangile. Est-ce qu'il s'agit simplement de cette satisfaction, la satisfaction d'avoir servi l'Église et d'avoir servi notre société, le monde, d'une belle manière? Est-ce que c'est juste la récompense serait simplement cette profonde satisfaction? Ou bien est-ce qu'il s'agit de quelque chose de plus? Que ceux qui se sont donné la peine après leur conversion, non pas pour ajouter quoi que ce soit à leur salut, mais simplement pour servir, pour être utile, aussi bien pour le royaume de Dieu, pour l'Église, que pour le monde, pour la cité, pour la société, est-ce qu'ils vont recevoir une récompense de la part de notre Seigneur? L'apôtre Paul ne mentionne pas, bien entendu, il ne dit pas de quoi il s'agit, cette récompense, mais par contre, Paul dit très clairement que cela ne concerne pas notre salut, mais parce que notre salut est acquis à la croix par le Christ, mais par contre, il y aura une récompense. Pour terminer donc sur cette comparaison sommaire, j'aimerais vous dire deux choses. Pour la théologie musulmane, on est sauvé par, si je dois résumer, on est sauvé par ses œuvres et récompensé pour ses œuvres. Mais pour la théologie chrétienne, on est sauvé par la foi et la foi seule en Jésus-Christ, mais récompensé pour les œuvres qu'on fait pour Jésus-Christ et j'espère aussi par. J'aimerais mentionner deux réflexions pour terminer un petit peu cette étude, deux réflexions que cette étude comparative a suscité en moi. D'abord, la première porte sur la valeur de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Nous parlons souvent de la grâce et nous avons raison de le faire et il nous faut continuer à le faire. Si un jour on prêche un évangile sans la grâce, ce n'est plus l'évangile que notre Seigneur nous a laissé. L'évangile que le Seigneur nous a laissé est un évangile de grâce. Mais par contre, nous devons veiller, lorsqu'on entend tellement d'enseignements sur la grâce, nous devons veiller à ce que le mot grâce garde toujours sa profondeur, à ce que le mot grâce ait toujours sa signification, un sens à nos oreilles, et veiller à ce qu'il ne perde pas sa valeur dans notre cœur et dans nos oreilles. Il nous faut prendre le temps de reconsidérer régulièrement la grâce que Dieu nous manifeste en Jésus-Christ. Il nous faut nous efforcer à recevoir la grâce de Dieu chaque jour d'une nouvelle manière, d'une manière encore plus profonde, d'une manière plus approfondie, et ne pas céder à la paresse aussi bien intellectuelle que spirituelle, de rester sur ses acquis, sur la définition que j'ai déjà de la grâce, et ne pas faire l'effort de chercher à voir si je peux progresser un peu plus dans ma compréhension, dans mon regard de la grâce de Dieu. Approfondir à chaque fois nous entendons le mot grâce et nous efforcer pour voir un peu plus loin que ce que nous avons vu jusqu'alors. Il nous faudra après faire violence par moment pour, en effet, ne pas rester sur une définition un peu de grâce superficielle. Il me semble que c'est une réelle tentation pour nous. Nous devons vraiment veiller sur ce point. Mesurer la grâce de Dieu envers nous. La seconde réflexion que cette étude a suscité en moi, autant chrétien, d'arrière-plan musulman, mais autant chrétien, c'est de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous adresse cette recommandation que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous permet, entre autres, de produire des fruits de la repentance, et à mener une vie remplie de bonnes œuvres. Et là, j'aimerais citer un texte de Tite, souvent qu'on laisse de côté, où l'apôtre Paul expose l'objet, le but de la grâce. Il dit, au chapitre 2, à partir du verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Il rappelle que c'est Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous racheter de toute iniquité et nous faire et faire de nous un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Le but de la grâce de Dieu est de nous conduire, entre autres, dans une vie de sanctification, dans une vie zélée pour le Seigneur, pour les bonnes œuvres. Nous avons bien raison de dire, et surtout, là cette année, vous savez que nous fêtons le 500e anniversaire, avec le début de la réforme, la publication des thèses de Luther, mais on reviendra en 1517. On a bien raison de dire la grâce seule, mais nous devons laisser produire son effet. Nous devons laisser la grâce produire son effet dans notre cœur et dans notre vie. Nous devons la laisser transformer les dispositions de notre cœur et la laisser nous conduire dans une vie de bonnes œuvres, une vie qui va rendre gloire à Dieu, une vie constatée par ceux qui nous entourent vont rendre gloire à notre Père céleste. Et c'est ça ce que Jésus dit à ses disciples. Dans le Sermon de la montagne que nous avons médité depuis maintenant un peu plus d'une année ici dans notre Église, Jésus rappelle l'exigence. Il faut que votre justice surpasse celle des pharisiens et des scribes, celle des religieux. Et Jésus place une exigence bien supérieure. Qui peut nous permettre de vivre, de répondre à cette exigence? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous transforme et qui nous façonne. La grâce de Dieu, telle qu'elle est révélée dans l'Évangile, se distingue de toutes les autres faveurs, de toutes les autres miséricordes qu'on pourrait trouver dans les autres religions, notamment dans l'islam. Et voilà pourquoi je veux vraiment nous encourager en tant que chrétiens, d'abord, à continuer à réfléchir, à méditer toujours sur la grâce de Dieu et à laisser cette grâce de Dieu nous transformer, nous façonner. Et puis, si jamais l'un ou l'autre, ou des amis musulmans sont dans la salle, ou des amis qui ne sont pas dans la salle, mais que vous avez des amis musulmans, il me semble qu'il faut les faire réfléchir sur réellement la capacité à l'homme, à l'être humain, avec tout ce qu'on voit, les horreurs qu'on voit, la capacité à un être humain vraiment d'arriver à répondre à la justice de Dieu, ne serait-ce qu'à atteindre 50% de la justice de Dieu. L'homme, tellement marqué par le péché, serait-il réellement capable d'atteindre 50% de l'exigence de la sainteté et de la justice de Dieu? Penser cela, me semble, reviendrait simplement à réduire, ou bien à ne pas avoir une conception, haute conception de la justice et de la sainteté de Dieu. Voilà que le Seigneur donc nous aide à vivre par la foi pour notre salut et aussi à laisser sa grâce produire en nous des œuvres bonnes pour la gloire de son nom. Voilà, il nous reste quelques minutes. Si vous voulez, 5 ou une dizaine de minutes au plus tard, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, et si vous voulez revenir sur une chose ou l'autre qui a été abordée au cours de cet institut biblique. Voilà, je vois Ginette lever la main. Allez-y, Ginette. Vous savez, Ginette, j'entends très mal. Je suis très loin. Là, je suis à Montmartre. Parle un peu plus fort. Tu as compris, Thierry? Enfin, je ne sais pas si quelqu'un... Moi, je n'ai pas entendu, Ginette, je suis désolée. C'est une question? Oui? Très bien. D'accord. Non, mais très bien, oui. Donc, notre sœur nous dit qu'elle était avant dans une tradition plus catholique et que depuis qu'elle s'est convertie, elle est très heureuse de vivre la foi de l'Évangile. J'aimerais, franchement, et c'est vrai, vivre dans une religion où on est suspendu au résultat de nos œuvres peut être quelque chose de très écrasant lorsqu'on le prend au sérieux. Et je rejoins complètement ce que j'ai cru comprendre du propos de Ginette. Le fait d'arriver en Christ et de dire « vous n'avez rien à gagner, de toute manière vous ne pouvez rien gagner, mais je vous offre tout cela gratuitement », c'est un vrai repos. C'est un réel repos pour nos âmes. Mais ce repos-là, ça suscite en nous, logiquement, naturellement, ça doit susciter en nous un élan pour par amour pour le Seigneur, pour accomplir de bonnes œuvres, pour que le Seigneur soit glorifié. J'ai pas compris. Ah, pourquoi je revenais sur l'islam? Ah oui, d'accord. C'est pas grave, attendez. C'est bon. Vous m'avez posé la question, je vous réponds. Dites-moi. Ginette, vous m'avez posé la question, je vous réponds. Voilà, donc ne tournez pas ni à l'arrière ni à côté, donc je vous réponds. Donc pourquoi je reviens sur l'islam? Il se trouve que dans notre vie d'église et autant que pasteur dans l'équipe pastorale, nous avons décidé de faire des séries. Dans mes prédications, je mentionne très rarement la question de l'islam. Donc nous avons décidé que pour les instituts bibliques, on a fait une première partie sur l'espérance chrétienne, et nous avons décidé que pour la dernière partie, qu'on allait traiter sur certains sujets en lien avec l'islam, parce que dans notre société, il y a aussi beaucoup de musulmans auxquels nous voulons témoigner. C'est la raison pour laquelle je suis revenu sur l'islam, mais soyez rassurés, de toute manière, vous l'avez certainement remarqué, dans mes prédications, je fais très peu allusion aux questions de l'islam, mais je prêche l'évangile. Voilà la raison pour laquelle je suis revenu. Pour les instituts bibliques, je reviens sur la question de l'islam. Donc, on ne va pas disserter sur ça, j'ai répondu à la question. Thierry, tu veux dire ? Bien. Voilà, merci beaucoup Thierry pour cette question. En fait, c'est la deuxième option que Thierry propose. Donc, lorsqu'un musulman pêche, il le regrette et parfois s'il peut faire réparation, etc. Mais fondamentalement, c'est une dette. Il faut qu'il fasse le bien à côté pour annuler cette mauvaise action. Si je pousse le raisonnement un peu plus loin, c'est un peu, mais je caricature, ne prenez pas ça pour tous les musulmans. C'est-à-dire un musulman qui, par exemple, vole quelqu'un, il va dire, j'ai commis un vol, il faut que je fasse une action de bien qui va au-delà de ce vol. Si je pose encore le raisonnement, puisqu'on est au plein des attentats, etc., il faut en parler, quand un musulman tue quelqu'un, il va dire, je vais essayer de sauver la vie d'une personne, voire de deux. Pour lui, c'est compensé. C'est horrible un peu ce que je dis, mais c'est un peu ce raisonnement. Ce n'est pas comme nous, par exemple, en tant que chrétiens, lorsque nous avons péché, même si le Seigneur nous pardonne notre péché reste mal. Le mal que nous avons commis reste mal. Le Seigneur choisit de regarder ce mal par le biais du pardon qui nous a été acquis par Jésus-Christ, mais ça ne change rien. Vous savez, on traduit toujours « Dieu change le mal en bien ». C'est une mauvaise traduction. Dieu ne change jamais le mal ou en bien. Le mal restera toujours le mal. Parfois, il tire de circonstances horribles, de mal que nous avons commis. Il arrive à faire des choses bonnes, mais le mal lui-même restera toujours mal. Dans la conception musulmane, on n'est pas obligé d'annuler le mal, mais de le compenser par le bien. Qui donc ? Ah oui, excusez-moi. Oui ? Oui. Oui, oui. Bon, après, Mais attendez, merci beaucoup, merci pour votre question, c'est très bien, merci pour votre question, je réponds. Donc vous avez posé la question, je sais que c'est un sujet qui peut nous passionner, mais il faut qu'on soit très... Tout à fait. Mais très cher, vous avez posé votre question, laissez-moi vous répondre. Merci. Donc, je vous disais que pour le jugement tombal, je vous ai donné même les Mu'tazilites qui rejettent le fait que Mohammed soit intercesseur. Je vous dis que dans le Coran, il n'est pas mentionné, seul Dieu peut intercéder le jour de jugement. Seul Dieu. Ça, c'est dans le Coran. Il n'y a aucun texte. Si vous avez des textes, sortez-les-moi. Hein. Donc, j'ai mon Coran ici. Donc, il n'y a aucun texte qui indique cela. Dans la tradition musulmane, lorsqu'ils disent que la plupart des... En fait, ils disent que Mohammed peut aussi intercéder. En fait, c'est un raisonnement sur la base du Coran 17 où Mohammed est monté au ciel. Il a fait une expérience extatique où il a intercédé. Ils disent, de la même manière qu'il a intercédé, et il peut intercéder au jour de jugement pour nous. Donc c'est un raisonnement théologique, mais le Coran lui-même ne dit jamais que Mohammed peut intercéder. Or, pour la pierre tombale, cette pierre, etc., auquel vous faites allusion, je vous promets qu'elle n'est jamais mentionnée, et là aussi bien dans le Coran que dans les hadiths, la plupart des hadiths qui sont connus et qui abordent la question, qui touchent à la question de jugement. Maintenant, bon, voilà, vous pouvez trouver beaucoup de sources, mais il faut vérifier souvent, il faut vérifier toujours ces sources. Pour le jugement tombal, je ne suis pas rentré dans les détails, mais je crois que dans le PowerPoint, j'avais donné les noms même des deux anges qui sont mentionnés, où c'est un jugement, donc il pose un interrogatoire. Après la question de frapper par des choses comme ça, bon, voilà, oui, par marteau et tout, mais vous savez, il y a pire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a Audrey et après. Oui, à Jésus. En fait, ils disent que Jésus reviendra à la fin du temps pour le combat final entre le bien et le mal. C'est clair, Jésus reviendra avec le dernier imam, mais par contre, c'est pas que Jésus va les sauver. En fait, Jésus va enseigner l'islam, il va demander à revenir à la seule, unique religion qui existe, qui serait un peu l'islam, qui fait la synthèse de toutes les autres religions. Voilà, mais Jésus jouera un rôle important. Et ça, c'est vraiment, c'est dit clairement. Peut-être une dernière peut-être question, ou l'avant-dernière. Après, vous l'idée. Des hommes de loi, oui, qu'il y a beaucoup de choses à faire, oui. Oui, c'est vrai que c'est très dur. Pour nous qui ont l'habitude simplement, enfin, qui ont l'habitude de lire l'Évangile, c'est sûr que quand vous passez de l'Évangile à la lecture du Coran, ça peut être vraiment un choc. Voilà, ça peut être un choc, c'est ce que je comprends. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah oui, c'est le Saint-Esprit, oui, tout à fait, oui. Et le Saint-Esprit se sert aussi de la parole. Et dans la parole, notre parole aussi, il y a les 10 commandements, il y a la loi, il y a des choses très concrètes qu'il ne faut pas faire. Quand la loi dit « tu ne tueras point », tu ne tueras point. Voilà, quand elle dit « tu ne voleras pas », tu ne voleras pas. Et ça aussi, c'est un commandement qu'il faut accepter. Mais c'est vrai que ce sont des commandements remplis de grâce. Dieu nous donne un cadre dans lequel on peut grandir et on peut s'épanouir. Ça, c'est tout à fait vrai. La dernière intervention. Allez-y. Voilà. En effet, et dans la théologie musulmane, on peut faire des actions, de bonnes actions, en faveur d'un parent décédé. Là, c'est une collègue, notre sœur, dont le père est décédé l'année dernière, et donc sa fille a fait un jeûne le jeûne que son père n'a pas pu faire, probablement juste avant le mois de Ramadan. Ça existe, dans les musulmans peuvent faire des actions en faveur des défunts. En disant pour que Dieu compte ce qu'ils font en faveur de ses défunts. Mais ça, il faut être vraiment... Donc il faut être sûr déjà que pour soi, il a bien fait déjà, il a fait assez pour soi pour pouvoir essayer de faire pour les autres. Mais ça existe. Comment venir maintenant sur le terrain de la grâce, sur la base juste des œuvres? Voilà, personnellement, l'une des questions fondamentales que j'aime poser et sur laquelle j'aime faire réfléchir, c'est de dire, est-ce qu'en jeûnant un mois, même en jeûnant un an, 12 mois dans l'année, est-ce que vous pensez que ça réparera ou ça sera suffisamment, ça répondra suffisamment à la sainteté et à la justice de Dieu? Personnellement, je ne pense pas. Mais ça fait... Zakia, mais ce sera vraiment la dernière, parce qu'après, les jeunes doivent préparer tout. Il faut qu'on avance, on a une journée bien remplie. Zakia. De l'heure, oui. Très bien. Oui. D'accord, mais c'est bon, la question, j'ai compris. Vas-y, passe à la deuxième chose, parce qu'il faut que j'y réponde. Non, ouais, c'est ça. Voilà, ouais. Ouais, voilà, tu fais des actions, mais je pense pas, enfin après, ouais, donc Zéchiel nous dit que pour rattraper le mal parfois, on fait de bonnes actions, par exemple jeûner 40 jours, etc. Mais souvent, jeûner 40 jours, on le fait pour le défunt victime, et non pas pour celui qui a fait le mal. Deuxième chose, juste, je reviens sur, ah mon Dieu, du coup j'ai oublié. Ah oui, l'heure, merci, pour le jugement. Les signes, mais c'est vrai qu'il y a énormément de reprises dans le Coran, il y a beaucoup de reprises, des choses qui sont des signes qui sont repris de l'Apocalypse. Hein. C'est pour ça que je vous ai lu un peu certains textes qui sont repris de l'Apocalypse, qui sont repris même du discours de Jésus sur la fin des temps. Il y a beaucoup de choses. Mais cela montre simplement que Mohammed, à l'époque, il était vraiment en dialogue avec des chrétiens, nombreux chrétiens, et il prenait beaucoup de choses de l'Évangile, de l'Ancien Testament, comme il a fait aussi pour d'autres sujets. Et sur ce sujet, il a pris aussi énormément de choses, surtout que sont les premiers textes qui sont écrits. Mohammed, il était à la Mecque, donc c'est pendant la première partie de son ministère. Et là, il était beaucoup en contact avec les chrétiens et les juifs. Et dans la ville de Hira, par exemple, la grande église syriaque, elle était là. Et c'est là que Mohammed a formé un peu ses armes. Donc c'est une reprise, il y en a beaucoup de reprises comme cela dans le Coran. Oui, tout à fait. Thierry. Non, ouais, non. Ah oui, c'est très frappant. Oui, il a repris vraiment l'antéchrist parce que pour Mohammed, c'est Christ qui va revenir. Le Mahdi, l'imam, il va participer, mais le combat final, si vous avez remarqué, c'est le Christ qui va anéantir l'antéchrist. Et ça, c'est dans l'islam qui est dit. Hein. C'est pas Mohammed qui va anéantir le Christ, ce n'est même pas l'imam qui va revenir, qui va anéantir l'antéchrist. C'est le Christ qui va anéantir l'antéchrist. Ah oui, non, mais c'est... Voilà, pour terminer juste, j'aimerais vous rassurer. Hein. Je suis chrétien pour certains qui pourraient en douter un peu. Et je le dis avec beaucoup d'humour, je le dis très simplement, hein, pour moi, la foi chrétienne, lorsque j'ai choisi de devenir chrétien, ça m'a coûté. Voilà, donc ça m'a coûté. Donc si aujourd'hui je reviens, je parle de l'islam en toute liberté, je parle en toute liberté, je n'ai surtout pas peur de l'islam ou des musulmans. Voilà, merci pour votre attention.